C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir? The Cure?
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu.
Les Canus Info.
Canus Info
du mercredi.
Bonsoir.
Vous êtes toujours sur Radio Canu. Il est 19h04 et donc ce sont les Canu Info.
Alors, après une paire de brèves, on va commencer par un truc un petit peu sérieux et austère. On va parler de la PAC, la politique agricole commune. Mais juste après, on va avoir un petit montage sur le cirque médiatique ce matin à la Guillotière avec l'extrême droite dans toute sa splendeur et un peu des gens pour l'accueillir.
Et après une petite pause musicale, on aura un sujet sur le nucléaire qui est, ma foi, une énergie intermittente. Ou est-elle une énergie intermittente comme les autres?
Et puis, normalement, on aura ici Dalil, qui est l'animateur de l'émission de Radio Canu, Berbère sans frontières, qui va venir nous parler de plusieurs de ses amis en Kabylie, en Algérie, qui se font massivement arrêter en ce moment.
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios.
Canu Info.
Allez, on commence par une petite brève pour rigoler. Ça se passe aux États-Unis, en Floride, où, ma foi, il y a eu une sorte de grande rencontre des anti-vax. De cette rencontre, 7 médecins sont sortis positifs au coronavirus. Alors, ma foi, ils ont été testés
positifs. Arrêtez de rire derrière votre poste.
C'est ça. C'était au début du mois, donc maintenant on sait qu'ils sont bien positifs. Parmi eux se trouvait le docteur Bruce Burrows, un fervent partisan de l'ivermectine, qui est un traitement antiparasitaire qu'il présentait comme un remède miracle contre le Covid-19. Alors, il se trouve que depuis, le docteur John Little, qui était un des organisateurs de cette conférence, a précisé que le docteur Boros, tout positif qu'il était, allait bien, mais cette information a été contredite par des proches du médecin, le docteur Boros. Pour autant, on va aussi parler de ce pauvre Jean Castex qui, ma foi, lui aussi, il a le Covid. Ça pourrait nous faire plaisir, mais en fait, même pas. Parce que le problème, c'est que comme tout le monde sait qu'il est vacciné, archi-vacciné, il s'est fait vacciner devant la télé, tout ça. Bah, du coup, les anti-vax, qui sont, ma foi, pas toujours très malins, comme on le sait, en profitent pour dire que le vaccin ne sert à rien. Alors voilà, malgré ce gros naze de Jean Castex, rappelons que le vaccin n'est pas une garantie de ne pas attraper le virus. Le vaccin diminue les chances de le choper. Il diminue les risques de faire une forme grave. Il diminue les risques de le refiler aux autres. Pour les anti-vax qui nous écoutent, diminuer, ça ne veut pas dire supprimer. On le sait depuis le début. Arrêtez de nous saouler.
Canu Info. Du mercredi.
Et puis la petite brève bonne nouvelle, puisque victoire pour les paysans, paysannes indiens et indiennes. On vous a beaucoup parlé cette année de la mobilisation donc, des paysans en Inde contre la réforme de l'agriculture. Une réforme qui était sous forme de 3 lois qui visaient à libéraliser le marché agricole en supprimant le marché public et donc la garantie, plus ou moins, ça c'est vraiment un résumé. Si vous voulez vraiment le détail, on vous renvoie à tous nos épisodes précédents. Donc en gros, ça supprimait un peu la garantie d'un prix de vente minimum pour les récoltes. C'est autant dire que ces lois-là, elles signaient la mort des plus petits producteurs. Alors au cours d'une année de mobilisation inédite, en bloquant les accès à New Delhi, des millions de paysans paysannes ont fait face aux violences de la police, aux ordres du gouvernement nationaliste du Premier ministre Narendra Modi. Ils ont tenu bon à peu près 15 mois de lutte en se relayant aux portes de la capitale, en gardant la contestation active, même pendant le Covid-19, après la décision de la Cour suprême de suspendre les lois en janvier 2021, donc qui était plutôt une bonne nouvelle, mais qui n'était pas... qui n'ancrait pas la suspension. Ils ont maintenu bon leur lutte. Et donc, vendredi dernier, Narendra Modi a annoncé le retrait définitif des réformes. Si le geste est avant tout politique, puisqu'il y a des élections qui vont avoir lieu début 2022 au Punjab et en Uttar Pradesh, donc c'est deux des provinces qui étaient un peu les hauts lieux de la contestation paysanne, ma foi, cela reste toujours une victoire et un espoir pour tous les travailleurs indiens.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Alors, ça y est, le Parlement européen a voté la PAC. La PAC, alors pour les cancres, pour les gens qui se renseignent ni en nous écoutant ni ailleurs. La PAC, c'est la politique agricole commune, c'est la thune que l'Europe verse aux agriculteurs. Et ce qui est en jeu à chaque fois, tous les 5 ans, c'est les critères sur lesquels cette thune est versée. Là, l'Europe vient de voter les aides pour 2023 à 2027. C'est pas n'importe quoi, c'est une énorme partie du budget de l'Europe. J'ai lu des articles qui disaient quel pourcentage, j'ai oublié, mais c'est peut-être 20%. En tout cas, c'est 387 milliards d'euros. C'est 270 milliards d'aides qui seront directement versées aux agriculteurs et le reste sera réparti à l'appréciation de chaque gouvernement. Alors, le site La France Agricole titre « L'adoption de la PAC par le Parlement européen divise les syndicats ». Ah oui, ça divise les syndicats. Après, il y a syndicats et syndicats. C'est un peu comme si on titrait quand Macron vient de faire, par exemple, une réforme des retraites, une réforme du droit du travail, une réforme de l'assurance chômage ou je ne sais quoi, que cette réforme divise les syndicats. Généralement, c'est vrai. Le MEDEF s'en félicite, les autres syndicats, pas tellement. Bah là, c'est pareil. La FNSEA est contente, la Confédération paysanne, pas du tout. La FNSEA, en résumé pour les gens qui n'ont jamais mis les pieds à la cambrousse, c'est le syndicat qui défend l'agro-industrie, c'est le syndicat des gens qui n'ont jamais vu un épi de blé parce qu'ils passent tout leur temps soit dans les salles de bourse, soit dans les bureaux de Bruxelles. Attention quand même, les adhérents de la FNSEA, ce n'est pas que ces gens-là. La FNSEA défend ces gens-là, mais il y a des adhérents qui, ma foi, disons qu'ils ne sont pas toujours malins et qui se font un peu arnaquer. Mais c'est aussi les petits agriculteurs qui se suicident parce qu'ils n'ont plus rien d'autre que des dettes. Mais ceux-là, c'est ceux qui sont toujours persuadés qu'en protégeant les riches et en protégeant les pratiques éternelles, en fait, quand on parle de pratiques éternelles dans l'esprit des gens de la FNSEA, c'est-à-dire tout ce qui date de l'industrialisation de l'agriculture après la Deuxième Guerre mondiale, c'est comme ça qu'on s'en sortira et que tout ira bien et que ça sera la belle vie. En tout cas, c'est dans les gros problèmes, il y a les écologistes qui veulent nous empêcher de travailler en rond. Bon, ces adhérents, ceux qui réellement sont dans la merde tout le temps, ça les décennies de démenti sur leur tactique, ça les a jamais empêchés de continuer à y croire. Dans le monde du travail, c'est un peu comme, alors disons, le MEDEF, mais avec aussi les adhérents de la CFDT. Bref, la PAC a été votée et le gouvernement français, comme globalement les droites européennes, trouve qu'un grand pas a été fait vers plus d'écologie dans cette PAC. La grande nouveauté, c'est que 25% des versements seront adossés à la mise en place de pratiques plus vertueuses pour l'environnement. Alors comme ça a l'air pas mal. 25%, bah non, en fait, ça a l'air déjà pas beaucoup. Mais même comme ça, c'est une arnaque. La réforme donc, n'entrera en vigueur qu'en 2023, puisque la PAC à chaque fois est votée pour 5 ans et qu'elle est votée assez longtemps à l'avance. Mais la FNSEA déplore déjà, alors que donc il reste encore un peu de temps, un manque de progressivité. On n'y arrivera pas du jour au lendemain. On risque d'amputer les agriculteurs d'un quart de leurs revenus, se chougne Christine Lambert. Christine Lambert, c'est qui ? C'est la chef de la FNSEA. Alors quand elle dit du jour au lendemain, c'est parce qu'elle a découvert hier soir le problème du changement climatique et la place de l'agriculture est dans le problème et éventuellement dans la solution. J'ai jamais entendu parler avant. En fait, la PAC 2023-2027 continue de soutenir principalement l'agriculture productiviste et l'agrandissement des exploitations. Christiane Lambert n'a pas à se plaindre, mais elle le fait quand même pour être sûre que, enfin, préventivement en réalité. Cette PAC découle d'une base de négociation qui a été rédigée il y a plus de 3 ans et qui n'a pas du tout été revue au moment où, avec Ursula von der Leyen, qui est arrivée et qui a dit on va verdir l'Europe, on va tout verdir, on va faire un pacte vert avec des objectifs climatiques et environnementaux ambitieux. Mais en fait, tout ça n'a pas été révisé sur cette base. Donc la PAC, du coup, ne répond pas du tout aux objectifs fixés par cette feuille de route. Notamment l'objectif d'arriver à 25% de surface agricole du continent en agriculture biologique d'ici à 2030. Ça, il faut espérer qu'on y arrivera, mais en tout cas, ce n'est pas à l'aide de la PAC que ça risque de marcher. Cette PAC, entre autres, est calculée pour chaque exploitation, c'est des aides à l'hectare. Plus vous avez d'hectares, plus vous touchez de thunes. C'est-à-dire que le bonhomme qui, tout seul, sur son tracteur méga-industriel ou la moitié du temps derrière son ordinateur qui lui dit ce que ses vaches sont en train de faire toutes seules avec les robots, celui-là, qui généralement a une exploitation gigantesque, touche énormément plus d'argent que la petite ferme avec 5 salariés qui, elle, a moins d'hectares, mais qui est généralement bien plus respectueuse des trucs d'environnement, blablabla. C'est qui est aussi plus souvent en bio, mais de toute façon, pour ce qui est pesticides, pour ce qui est aussi, mine de rien, chez les éleveurs, bien-être animal, c'est-à-dire que on va pas rêver. Globalement, être une vache, c'est pas très cool. Mais quand même, c'est pas la même chose d'être une vache dans une énorme exploitation ou dans une petite exploitation bio. Et alors, ces histoires d'aide à l'hectare, alors que la Confédération Paysanne, elle, par contre, milite depuis des années pour une aide en fonction du nombre de salariés. C'est-à-dire qu'une petite ferme où les gens font leur taf d'une manière un peu plus en détail, un peu plus proche de la réalité du travail, généralement a bien plus de salariés par rapport au nombre d'hectares et donc pourrait toucher plus à ce moment-là. Et globalement, les fermes bio sont souvent dans ce cas-là.
Y compris sans se tuer à la tâche en faisant 40 heures par semaine pour une seule personne, quoi.
Oui, c'est ça. Bon, alors, résultat de cette histoire d'aide à l'hectare, eh ben, 90% des aides sont perçues par 20% des agriculteurs. Et c'est justement les agriculteurs qui ont les plus grosses exploitations. C'est aussi ceux qui utilisent le plus de pesticides. C'est l'agro-industrie, la massive agro-industrie, quoi. Alors, en 2015, l'Union européenne avait introduit les paiements verts. C'était un truc pour encourager les agriculteurs à changer leurs pratiques agricoles. Bon, résultat, rien du tout. Les pratiques n'ont évolué que pour 5% des surfaces agricoles. Et du coup, ces paiements verts ont été remplacés par ce qu'on appelle les éco-régimes dans la nouvelle PAC. La différence est quand même ténue. Elle ne permettra pas non plus de verdir l'agriculture européenne, d'après les députés écologistes, par exemple. Dans la nouvelle PAC, 25% des aides directes dépendront de ces éco-régimes. Ce qui veut dire déjà que 75% n'en dépendront absolument pas. Mais, en fait, vous allez voir, même pour ces 25%, c'est encore un peu... Donc voilà, les agriculteurs auront accès à 2 niveaux d'éco-régime. Soit ils font un petit peu, et dans ce cas, ils auront droit à 54 € l'hectare. Soit ils font vraiment pas mal, dans ce cas, ils auront droit à 76 € l'hectare. Avec 3 possibilités d'arriver à cet éco-régime haut, celui où on touche plein de thunes, en fonction des pratiques agricoles. Alors ça veut dire qu'il ne faut pas labourer les prairies permanentes, il faut diversifier les cultures,
en fonction des certifications. Alors les certifications, ça peut être agriculture biologique, ça peut aussi être les certifications de haute valeur environnementale. Et cette histoire de haute valeur environnementale, c'est une sorte de certification qui a été créée par le gouvernement français et qui sert principalement à mettre au même niveau que les bio des gens qui ne le sont pas du tout, du tout, du tout, avec des critères, des critères tellement râle et pâquerette que c'en est que c'est du foutage de gueule massif, quoi, enfin du foutage de gueule pur, enfin je sais pas comment dire, c'est incroyable le niveau de foutage de gueule. Et la troisième voie, c'est le respect d'un pourcentage de la surface en infrastructures écologiques. Qu'est-ce que c'est des infrastructures écologiques? C'est par exemple vous plantez une haie entre deux de vos champs, cette surface de haie est considérée comme une infrastructure écologique. Si vous laissez une partie de vos terres en jachère, c'est aussi écologique. Bon, généralement, en fait, les agriculteurs le font. Si vous avez une mare sur votre ferme, c'est écologique. Généralement, ça aussi, c'est pas rare du tout, du tout, y compris chez des gens qui, à côté de ça, mettent tellement de glyphosate à côté de leur mare que, de toute façon, il n'y a plus un seul organisme vivant à l'intérieur de la mare. Et alors, le cahier des charges des éco-régimes est défini par chacun des États membres. C'est-à-dire que en France, par exemple, Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, nous dit que de toute façon, 70% des agriculteurs français pourront bénéficier des éco-régimes sans rien changer à leurs pratiques. Autant dire, l'idée, elle est bien là. Hein, mais je veux dire, et lui, s'il le dit, c'est parce qu'il le dit pour faire plaisir aux agriculteurs de la FNSEA qui, eux, veulent dire « on est écolo, on est écolo, on est écolo », surtout en ne mettant pas une goutte de glyphosate en moins dans toute leur exploitation. C'est bien ça l'idée. Donc tout dépendra de la volonté des États, et tous les États, bien sûr, se regardent un peu les uns les autres en se disant que celui qui mettra les critères les plus bas, ça lui donnera un avantage compétitif. Il pourra filer plus de thunes à ses agriculteurs qui, du coup, pourront faire des produits à meilleur marché. Et c'est bien là-dessus que ça marche. La France a fait le choix d'un cahier des charges, ma foi, que le magazine Challenge qualifie de assez léger. Alors, c'est quoi ce cahier des charges assez léger? Et bien, par exemple, si une exploitation consacre 7% de minimum de sa surface à des infrastructures écologiques, réservoirs de biodiversité, c'est-à-dire ce qu'on disait, des haies, un arbre qu'on laisse traîner au coin d'un pré ou des mares. Alors, en fait, il y a énormément d'exploitations qui ont déjà 7%, ne serait-ce que parce que, généralement, pour des histoires de relief, tout n'est pas exploitable. Donc, 7%, bim, éco-régime, même sans réduire du tout l'usage de pesticides. En outre, si les agriculteurs bio auront systématiquement accès aux éco-régimes, bon, ce qui est déjà sympa, hein. Ils sont bio, ils auront accès, incroyable. Ça ne sera pas que les HVE, c'est-à-dire ceux qui font rien, les hautes valeurs environnementales, mais même les bio, ils auront le droit. Par contre, les bio, il faut savoir que jusqu'à récemment, ils avaient une aide au maintien de l'activité en bio. C'est-à-dire qu'au moment où on passe une ferme en bio, on a une aide. Celle-là, elle existe toujours. Mais jusqu'à l'année dernière ou cette année, chaque année, le fait de continuer en bio, ça vous donnait droit à une petite aide. Pas énorme, mais quand même. Cette aide a été supprimée. Ce qui fait que, de toute façon, le fait pour les agriculteurs bio d'avoir accès aux éco-régimes, en fait, ça vient compenser la suppression de cette aide, mais ça va pas changer grand-chose pour eux. Ce qui va changer, c'est pour les gens qui sont pas en bio et qui, eux, vont toucher plus de thunes. Alors voilà, il faut dire quand même que en matière de qui a quels objectifs et comment ça se passe dans l'Union européenne, et ben l'Union européenne, elle voudrait atteindre 25% des surfaces agricoles en bio d'ici 2030. La France a aussi un objectif. C'est pas 25%, c'est 18%.
Canu Info.
Alors depuis une dizaine de jours, il y a une invasion policière place du Pont, autrement appelée la place Gabriel Péri à la Guillotière, donc à Lyon. Le déploiement qui se veut entre guillemets un nettoyage impulsé par les plaintes du collectif La Guillotière en colère, donc un collectif qui est plutôt facho, plutôt de commerçants aussi, voilà, qui ont l'air en colère. Donc, qui se déploie avec des flics en journée, une partie de la nuit. En passant, il y a eu pas mal d'histoires de rafles de sans-papiers, de nombreux mineurs isolés. qui ont été aussi arrêtés. Tout ça sur fond de racisme et de répression, voilà. Alors, pour se montrer, on a eu un défilé du maire, du préfet, et aujourd'hui, Jordan Bardella, président d'honneur du FNRN, voilà, pour une émission de CNews qui s'appelle « Face à la rue ». On vous fait écouter des petits morceaux de ce matin.
En fait, il y a Bardella, donc président par intérim du Rassemblement National, qui vient faire le tour de certains commerces du quartier de la Guille, commerces qui ont été a priori au préalable choisis par la chaîne, pour bien être sûr en fait que les propos qui veulent être transmis soient transmis. Et donc du coup, là, depuis 9h30, il y a des gens qui sont rassemblés sur la place du pont pour protester contre la venue de Bardella, le fait voilà, qu'il se serve du terrain de la Guillotière pour faire sa propagande raciste et fasciste. Et ça n'a pas sa place ici à la Guillotière.
Je suis là parce qu'une instrumentalisation du quartier de la Guillotière, de la misère des gens, c'est juste insupportable. À chaque fois qu'il y a des descentes de flics, ils ont juste réussi à choper cette cartouche de clope et par contre ils ont foutu 5 gars en cras, quoi. Donc c'est pas avec la police qu'on va résoudre toutes les choses, c'est avec des logements sociaux, c'est avec une vraie politique sociale et pas seulement au niveau du quartier. C'est aussi quelque chose qu'il faudrait faire au niveau de la ville, de la métropole, de l'État. Donc l'État peut se décharger en disant oui, il y a de la violence, mais c'est la vraie violence, elle est sociale et il faut changer ça pour régler le problème de la Guillotière. Alors ça se fera pas en un jour, hein, mais voilà. Enfin, et du coup que Bardella et Morandini viennent faire leur petit cirque, là, ça a gerbé, quoi. Voilà.
Alors là, autour de nous, on est entouré de camions CRS. Hein, ouais. Je sais pas combien on a, une bonne dizaine, j'ai un truc comme ça.
Oui, plein de boîtes de 12, comme on les appelait quand j'étais au collège. Ouais, y a des CRS partout, plus que d'habitude, alors que Guillotière a quand même le goût des CRS. Hein,
ouais, ça a bien maîtrisé. Depuis qu'il y a eu ce qui a été montré à la télé, quoi, que c'est blindé de CRS, ce qui rend l'ambiance assez chelou quand on descend le matin de chez soi, beaucoup plus stressant que d'habitude, quoi. On habite juste à côté là et voilà, du coup on a vu passer des appels justement pour l'arrivée de Morandini et de je sais plus quel élu RN là.
Jordan Bardella.
Ouais, ça Bardella. Donc du coup voilà, on venait voir un peu qu'est-ce qui se passait et puis
faire acte de présence d'une manière, parce que c'est vrai qu'on lit tout ça et on se sent un peu désarmé. On essaye de comprendre aussi qu'est-ce qui se joue et surtout qu'est-ce qu'il y a à voir. C'est presque ça l'enjeu. Là, je disais à mon pote en arrivant qu'on comprend pas ce qu'est le déclencheur, en fait. Il y a eu ces affiches chez les commerçants, mais qui étaient un peu inexplicables de base. Moi, je savais même pas à quoi elles avaient trait, en fait.
C'est déjà affiche sur l'insécurité, c'est ça?
Ouais, mais même le texte était très bizarre. Ça disait ouais, les commerçants sont abandonnés et tout, mais je crois qu'on a bien mis une semaine à comprendre que c'était ça l'enjeu. Et là, maintenant, il y a les commerces qui ferment, donc on se dit il a dû se passer quelque chose, mais on n'arrive pas à savoir qui s'est bien passé, quoi.
Il y a quand même un gros écart de traitement, comme c'est montré à la télé, et c'est vrai que les gens, des gens de ma famille avec qui je peux parler, qui m'ont dit mais est-ce que ça craint pas de rester là-bas et tout ça, et puis en fait je dis non, il y a eu effectivement, j'ai l'impression, ouais, une baston à un endroit, et du coup ils montent ça en épingle après pour pouvoir balancer toute leur litanie bien raciste, et faire de ce quartier un endroit où ils vont pouvoir un peu cracher leur venin à la télé. Pendant le confinement, on voyait vachement ce truc-là aussi, de différence de traitement de la police entre ici et par exemple les pentes ou le plateau, quoi, où Pour le coup, ici, c'était des contrôles constants pendant le premier confinement. Là où, quand on discutait avec d'autres amis qui habitaient dans d'autres quartiers, ils me disaient qu'ils ne voyaient jamais la police et que c'était assez tranquille. Donc c'est clair qu'après, il y a vraiment un accent qui est mis ici d'autoritarisme assez vénère, quoi, qui montre bien ouais, que c'est pas traité de la même manière ici, quoi.
J'habite pas dans le quartier, je suis venu uniquement voir Monsieur Jordan Bardella. Et j'aurais voulu lui dire un ou deux mots. Déjà, un, qu'il n'est pas bienvenu ici dans ma ville. Enfin, c'est pas ma ville, mais pour moi, il n'est pas bienvenu ici. Et voilà, secondo, moi j'aimerais qu'on arrête de stigmatiser un peu les étrangers. J'étais chez moi, j'ai allumé la télé, j'ai vu sur CNews, il y avait Jordan Bardella à la place du pont. Et je me suis dit, voilà, il faut peut-être c'est le moment de venir lui dire un mot ou deux mots. Parce que pour moi, voilà, ils sont pas bienvenus. Je sais qu'ils sont pas chez moi, mais voilà, pour moi, ils sont pas les bienvenus ici. Ça m'a vraiment choqué. Front National, ils ont rien à foutre dans la vie. Ici à Lyon. À Paris, je ne sais pas, mais ici à Lyon, je ne suis pas les bienvenus. Voilà.
Voilà, et on peut rajouter que pour permettre cette émission de CNews, il y a eu 40 quarts de CRS, une équipe de nettoyage pour décoller les affiches de protestation. Un passage, il y a eu aussi une autre petite surprise, c'était un passage des Dalton, qui est une bande de rappeurs qui fait dans le spectacle plutôt sympa et plutôt risqué pour eux. Voilà, qui ont lancé quelques feux d'artifice, l'un d'eux d'ailleurs en garde à vue après cette virée de ce matin. Et puis si vous voulez mesurer à quel point l'émission a pu être perturbée ou traduire les protestations qu'on vient d'entendre, on vous laisse face aux 1h11 de Morandini que nous n'avons pas eu le temps ni tellement l'envie finalement de regarder pour vous en faire une synthèse.
Canu Info.
On va, pour rester dans l'ambiance un petit peu, mais en se décalant dans le temps, on va écouter maintenant une chanson qui s'appelle Es brennt, qui est une chanson en yiddish écrite en 1938 et qui alerte sur la montée du fascisme. Ça brûle, notre ville est en feu. Mes frères, faites quelque chose au lieu de rester à regarder les bras ballants. Prenez des seaux et faites quelque chose.
Es brennt, Brüder, es brennt, wie unser Arm Städteln aber brennt. Diese Winden mit ihren Gossen reißen, brechen und zerblasen, starker noch die wilde Flammen, als darum schon brennt. Und ihr steht und guckt also mit verlegten Händen. Und ihr steht und guckt, als euch sich wie unser Städtel brennt. Es brennt, Brüderl, es brennt, euch unser Arm Städtel nebach brennt. Es haben schon die Feierzungen das ganze Städtel eingeschlungen und die Bese Winden rutschen, als herum schon brennt. Und ihr steht und guckt da so sich mit verlegten Händen. Und ihr steht und guckt da so sich wie unser Städtel brennt. Es brennt, Brüderl, es brennt. Es kann voll kommen der Moment.
Unsere Stadt mit uns zusammen soll auf Asch weg in Flammen bleiben soll, wie noch ein Schlag, ne schwarze Fuß der Welt. Und ihr steht und guckt, als euch sich mit verlegten Händen. Und ihr steht und guckt, als euch sich wie unsere Städtele brennt. Es brennt, Brüderlich, es brennt. Die Hilfe ist nur in euch allein gewendet. Euch das Städtel ist ein Feier, nennt die Kehlen, lässt das Feier, lässt den Eier, Eigenruf, beweist, dass ihr das kennt. Steht sich Frieden, hat das Säuse sich mit verlegte Hand. Steht sich Frieden, lässt das Feier, unser Städtel brennt.
Ben voilà, ben on va passer à autre chose, dites donc. Le gestionnaire du transport d'électricité RTE a alerté lundi sur l'état de vigilance particulière du réseau électrique cet hiver. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, est-ce qu'on va avoir assez d'élec pendant tout l'hiver ? Alors, pas de panique, hein. Normalement, tout va bien aller. Sauf, ma foi, nous dit RTE, si les températures sont vraiment trop basses, ce qui peut arriver parce que des fois, il y a un peu des... Si elles étaient inférieures de 4 ou 6 degrés par rapport aux normales saisonnières en janvier-février, à ce moment-là, c'est quand même possible que ça soit un peu chaud. Alors normalement, quand même pas de blackout. Normalement, il y a des systèmes prévus où certaines entreprises auront droit à moins d'électricité que d'habitude. Et puis, on espère que tout va bien se passer. Mais alors, comment ça se fait qu'on ait ce risque, me direz-vous ? Comment ça se fait qu'on ait ça ? Puisqu'on sait qu'on reproche tout le temps aux énergies propres, au solaire, à l'éolien, tout ça, d'être des sources d'énergie intermittentes, ce qu'on appelle intermittentes. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de soleil, bon, il n'y a pas d'électricité. Donc ça pourrait être un problème. Oui, mais enfin bon, on est en France. On ne va quand même pas croire que l'électricité de la France repose sur des énergies de hippies. La France, c'est le nucléaire, dans les grandes largeurs depuis les années 70. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Eh ben oui. Sauf que finalement, on se rend compte que le nucléaire, il est intermittent. Alors pourquoi ? C'est que tous les 10 ans, il faut une visite de sécurité dans les centrales. Une visite de sécurité où on regarde bien tout pour essayer que ça ne pète pas. Pour faire cette visite, ma foi, il faut arrêter la centrale. Et arrêter une centrale nucléaire, ce n'est pas juste appuyer sur un bouton on-off. Les visites de sécurité, ça demande d'arrêter les centrales quand même, le temps d'arrêter... de faire la visite et de redémarrer, ça demande 6 mois à chaque fois. Alors, comme la France a construit toutes ses centrales en même temps, les visites décennales, les visites de tous les 10 ans, tombent, ma foi, plus ou moins en même temps. Normalement, on décale quand même un peu, on en fait quelques-unes un peu en avance, pour pas que toutes les centrales soient arrêtées en même temps, normalement. Là, il y a eu le Covid. Alors, certaines de ces visites n'ont pas pu se faire. Maintenant, ma foi, le temps presse un peu. D'autant que ces centrales, il faut quand même se souvenir qu'elles ont été conçues pour fonctionner 30 ans et que là, ça fait déjà 40 ans. Et que le gouvernement, dans son amour du nucléaire, tient à les garder en fonction pendant encore 10 ans, peut-être même 20. On parle vraiment de les prolonger jusqu'à 60 ans, c'est-à-dire le double de la durée pour laquelle elles avaient été construites. Autant dire que ça vaut quand même le coup de vérifier un truc ou deux et de le faire relativement vite maintenant. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe ? C'est que certaines de ces visites sont en cours, qu'elles ne seront pas terminées au moment où il faudra commencer les autres, début 2022. Du coup, bien moins d'électricité disponible, puisqu'il y aura un bon paquet de centrales qui se retrouveront arrêtées. Alors, au moment où un cadre de la centrale de Tricastin porte plainte contre EDF pour des manquements à la sécurité du site, au moment où Mediapart révèle que l'autorité de sûreté nucléaire était au courant de tous les incidents dont parle ce cadre, et que la centrale avait préféré ne pas déclarer à l'ASN, et l'ASN avait fait semblant d'avoir rien vu. Autant dire qu'on ne peut que espérer que, pour cette histoire de visite décennale, personne n'ait trop la tentation de les alléger, les visites et les trucs de sécurité, juste pour aller plus vite, quoi. On peut espérer, on peut prier, parce que pour ce qui est de croire au sentiment de responsabilité des gens qui prennent ces décisions-là, ça déjà, on sait que ça fait longtemps que c'est plus possible.
Radio Canu 102.2. 89.2.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Alors, on a dans le studio Dalil. Dalil, qui est l'animateur de l'émission Berbère sans frontières sur Radio Canu le samedi soir. Dalil qui vient de nous parler un petit peu de répression en Algérie. Et quand je dis en Algérie, ça veut dire en particulier en Kabylie. Ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines et vraiment ces derniers temps un peu proches, il semble que ça se soit pas mal aggravé. Dalil.
Bonsoir, salut, Dalil.
Bonsoir. Juste, je réglais un truc. Voilà, ça ne va pas marcher. Bon, c'est pas grave.
On va faire avec.
Bonsoir à vous. Merci de m'avoir de m'accueillir, chers collègues.
Eh ben, écoute, c'est avec joie, Dalil.
J'arrive un peu en retard. Désolé.
Non, bon, très bien. Regarde, t'arrives pile à l'heure. Une des raisons qui déclenche le fait que t'es là, c'est que y a des gens qui ont été invités de ton émission et qui ont été arrêtés récemment.
Oui, exactement.
Que tu veux nous dire plus en détail?
Oui, il y a dernièrement, depuis on va dire 4-5 mois, il y a une répression sans précédent envers les militants, notamment en Kabylie, mais également partout en Algérie, à des degrés différents. Et ces jours-ci, il y a eu beaucoup d'arrestations, ces dernières semaines également, de militants, des droits de l'homme, des gens qui pensent différemment, des gens qui ont des opinions autres que celles, on va dire, du régime. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de d'invités qui sont venus ici dans l'émission, chez moi le samedi, qui ont été arrêtés. Tout simplement pour des choses qu'on leur reproche, on leur a mis de lourdes accusations.
Ouais, de quel genre?
Bah, elles sont tellement ridicules que j'ose même pas les dire. C'était du genre attroupement, atteinte à l'unité de l'État. Détention d'armes, rébellion.
Bon, pour ce qui est atteinte à l'unité de l'État, des gens qui ont été invités dans ton émission Berbère sans frontières, on peut se dire que potentiellement ils ont peut-être essayé d'atteindre un peu à l'unité de l'État.
Ben non, peut-être on peut atteindre à l'unité du pouvoir corrompu. Mais l'unité de l'État, si aujourd'hui il n'y a pas d'unité dans l'État, dans l'Algérie d'aujourd'hui, s'il y a vraiment une fracture entre les régions, une fracture entre les diverses tendances, je dirais ethniques, religieuses, parce que l'Algérie est profondément diverse de par sa diversité, de par les origines des peuples. Il y a plein de peuples en Algérie. Le peuple algérien n'existe pas. Il y a des peuples en Algérie, dont le peuple kabyle, le peuple chaoui, le peuple touareg, le peuple oranais, le peuple bref, et tous ces peuples-là, ils ont des diversités, ils ont des langues qui sont régionales, ils ont une culture, ils ont des... mais c'est vrai qu'en Kabylie, notamment, cette culture, elle est beaucoup plus imprégnée, beaucoup plus profonde, due à l'oppression, due à beaucoup de choses. Il y a une histoire également, la Kabylie a toujours été un bastion de la rébellion, un bastion de la résistance contre les envahisseurs, des Romains, en passant par les Vandales, les Espagnols, les Turcs et les Arabes, et puis... Les Français.
Attends, ne me montre pas en disant les Français.
Ouais, moi aussi, je suis français. Donc... Mais les Français, voilà, il faut savoir aussi que la France, si la France, aujourd'hui, entre guillemets, hein, a donné l'indépendance à l'Algérie, parce que moi j'estime que l'Algérie, elle est toujours sous protectorat de la France. C'est toujours.
Une colonie.
Une colonie, hein, pour moi. Il voilà, n'y a rien qui se passe en Algérie sans un coup de fil à Matignon. Et on l'a vu lors de l'affaire de la Zawad dans au Nord Mali avec malheureusement les Touaregs qui ont été trahis par la France, parce que voilà, les intérêts sur ont été vraiment primordiaux dans l'affaire Total, etc. Et à l'époque, c'est Laurent Fabius qui a informé publiquement l'opinion que les Mirages français allaient passer le territoire algérien, survoler le territoire algérien. C'est même pas le ministre de l'Intérieur algérien. C'est Laurent Fabius qui l'a fait. Donc, c'est pour ça que je dis que. Je ne parle même pas d'ingérence. Pour moi, l'Algérie, c'est la France. La France, c'est l'Algérie. Et puis, leur histoire là, d'histoire, de repentance, etc. Ça, c'est des conneries pour amuser la galerie, pour amuser les peuples, pour, on va dire, confronter les Français avec les Algériens entre eux, etc. etc. Moi, j'y crois pas.
Ouais. Mais alors, attends, parce que, je veux dire, c'est pas que je veux parler d'autre chose que du rôle de la France, absolument, c'est pas comme si dans ce cas du info, on pourrissait pas la France régulièrement, mais là, en l'occurrence, on parle quand même d'une répression vraiment algérienne, et toi, tu dis que ces derniers mois, c'est pire que jamais, est-ce que ça veut dire que, comment ça se passe, en gros, en Kabylie, depuis le début du Hirak et jusqu'à maintenant ?
Bon, il faut savoir que les derniers temps, le Hirak... qui est une révolution qui est partie de Kabylie et qui s'est terminée en Kabylie. Puisqu'on a étouffé...
Comment ça a terminé ?
Je vais te dire pourquoi. Bon, peut-être que vous avez des contacts avec notamment une journaliste que je salue qui intervient, je pense, chez vous. J'ai oublié son nom. Ou peut-être chez vos collègues. Hein. Ah, c'est, bon, il m'a échappé son nom. Haïdar, voilà. Mais pourquoi je dis qu'il s'est terminé en Kabylie ? Bon, je ne dis pas qu'il est fini. Hein. Mais les derniers temps, le pouvoir, il a étouffé la Kabylie pour étouffer les mouvements de contestation. Les mouvements autonomistes, les mouvements indépendantistes, donc mouvements qui demandent l'autonomie, mouvements qui demandent l'indépendance de la Kabylie, et le mouvement du Hirak, parce que actuellement, les derniers mois, les dernières semaines, le Hirak, il était concentré en Kabylie. Il y avait des marches, des rassemblements qu'en Kabylie. Ailleurs, on l'a étouffé, on a arrêté les têtes, parce qu'il faut, il faut le dire clairement, on va parler dans la langue de bois, mais ailleurs, il n'y a pas des... Tu vois, il n'y a pas des leaders où il n'y a pas autant d'opposition qu'en Kabylie. Il y a des gens qui sont opposés, mais malheureusement, ils sont peu nombreux. Donc on a arrêté les têtes, et puis le mouvement il s'est étouffé. Ailleurs, hein, je parle en dehors de la Kabylie. Et donc il fallait faire quoi ? Il fallait couper la tête du Hirak. Moi, personnellement, je n'ai jamais marché pour le Hirak, pour diverses raisons. Mais je soutiens tout mouvement qui s'oppose à ce régime criminel, tout simplement. Et donc on a voulu étouffer définitivement le Hirak. Qu'est-ce qu'on a fait ? Je pense que vous êtes au courant. Hein. On a allumé les incendies en Kabylie. On a tué un jeune qu'on a mis sur le dos des Kabyles. Un jeune qui venait d'une région en dehors de la Kabylie. On a essayé de mettre ce crime-là sur... Je ne dis pas que des Kabyles n'ont pas participé à ce lynchage. Et en effet, il y en a. Il y a eu une grosse manipulation. Voilà, on a pris... on a mis quelqu'un devant les fêtes. Jamel, en l'occurrence. Alors qu'il y a eu... pas loin de 200 morts qui ont été brûlés vifs, des enfants, des femmes, tout ça. Alors, vous l'aurez mis n'importe où, hein, Constantine, Annaba, n'importe où, vous l'aurez mis ce jeune-là, il aurait été lynché.
Là, c'est, je veux dire qu'on soit un petit peu plus clair pour les gens qui ne se souviendraient pas de ça, c'est que cet été, dans les différents endroits en Europe où il y a eu des énormes incendies, il y a eu entre autres la Kabylie, et c'est ça, où il y a eu des gros gros incendies, où il y a vraiment des gens qui sont morts brûlés.
Et je dirais même pas incendie, parce qu'incendie, quand tu dis un incendie, tu peux dire, voilà, c'est... C'est la chaleur, c'est tout ce que tu veux. Là, je dirais vraiment que c'est des actes criminels. C'est des actes criminels, il ne faut pas qu'on se trompe. Il y a eu volonté de tuer du Kabyle.
Okay.
On n'allume pas 60 départs de feu à la minute même sur un territoire qui mesure en grosso modo Rhône-Alpes. À la minute près, de partout, en même temps. Et on arrête des gens aujourd'hui. On a arrêté des militants, des gens qui étaient ici dans l'émission. On leur a collé cette histoire de départ de feu. On leur a dit que c'était eux les criminels, c'est eux qui ont tout manigancé avec Israël, avec le Maroc, contre l'Algérie. Et c'est des militants que je connais personnellement qui aujourd'hui se retrouvent accusés et recherchés, des mandats de recherche. Et ils sont en fuite alors qu'ils n'étaient même pas sur les lieux. Ils étaient en train d'éteindre des incendies dans leur village et il y a des milliers de personnes qui peuvent témoigner. On a ramené un jeune à la télévision algérienne qui s'appelle Vahrouch.
Parle mieux dans ton micro.
Voilà, je vais en prendre deux, là, c'est parce que j'ai l'habitude d'être là-bas. Et il s'appelle Vahrouch. Bon, il a témoigné certainement sur le coup de la torture avec d'autres. Et il a donné des noms, tout ça. Mais bon, on peut le comprendre qu'il a été torturé, on peut le comprendre qu'il a, il a agi sous le, par la force, sous la force. Mais personne n'y croit à cette histoire. Et les gens qu'on a accusés, qu'on a arrêtés ou qui sont en fuite, on leur a collé un crime qu'ils n'ont pas fait. Le pouvoir a orchestré ça pour montrer du doigt la Kabylie, pour diviser les régions l'une envers l'autre, puisqu'il y avait quand même malgré tout un soutien envers la Kabylie lorsque les incendies ont commencé et tout. Il y avait quand même des gens qui apportaient leur aide, qui apportaient des vivres, du matériel et tout. On a voulu casser tout ça. On ne veut surtout pas qu'il y ait une solidarité inter-région. Et du coup, on a collé ça, le meurtre, à la Kabylie. On a essayé de culpabiliser la Kabylie. Et on a arrêté tous ces militants qui aujourd'hui croupissent en prison. Mais ça a commencé bien avant. On a arrêté beaucoup de militants pour des opinions diverses. Et aujourd'hui, on arrête tout le monde. On a arrêté Mouloudj Mohand, qui était ici dans l'émission avec moi, journaliste à Liberté. Pareil, on l'a arrêté sur des accusations ridicules. Ils ont arrêté Bouazizi Chibi, notre ami Bécha. Ils ont arrêté Abdennour Abdeslam, qui est un sociologue, écrivain, et aussi qui est passé ici à la radio. Hier encore, avant-hier, ils ont arrêté Youssef Guiddache, qui est un militant chevronné. Voilà, quelqu'un qui est très apprécié dans sa région, qui sait parler, qui mérite le respect, rien que de l'écouter. C'est le collègue c'est le frère de ma collègue de radio. Ils l'ont arrêté, ils l'ont embarqué. Aujourd'hui, il est à Alger. Certainement, demain, il va passer directement en comparution immédiate au tribunal de Sidi Mahmed. Et certainement, il va rejoindre ses collègues à la prison.
Et après, les gens qui sont jugés, comment ça se passe pour ici?
Le problème, c'est ça.
Beaucoup.
C'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont sous mandat de dépôt. Ils sont sous mandat de dépôt. C'est-à-dire, Lounes Hamzi, par exemple, qui est un militant indépendantiste du MAC, il est en prison depuis plus d'une année. Il n'a pas été jugé. Il est toujours en prison. Hamou Boumdine, Bouazizi Chibib, Hussein Azam, Belaïd Al-Malkhoudja, Boussa Béchad, tout ça, ces gens-là, ils sont en prison. Ils avaient un mandat de dépôt jusqu'au mois d'octobre. On leur a prolongé, on leur a renouvelé le mandat de dépôt avant que le premier mandat n'expire. Donc, on ne sait pas ce que ce pouvoir cherche. Il a tout fait pour embraser la Kabylie, parce qu'à chaque fois, il essaye d'allumer la mèche. Mais cette fois, il ne l'a pas réussi.
Et donc, oui. En fait, ce qui a l'air d'avoir un petit peu changé là, par rapport aux arrestations qu'il y a pu avoir avant, c'est la méthode, c'est le fait que ça soit qui est orchestré et qu'il y ait des actes infondés qui leur soient imputés sur les militants.
Oui, parce que là, ils sont rentrés vraiment dans un cycle vraiment très, très vicieux, où il y a beaucoup d'oppression. On a l'impression de revenir un peu à l'époque de Boumdiane. C'est carrément la torture. Moi, d'après des infos que j'ai eues, des militants qui ont été torturés en prison, on a l'impression que les acquis qu'on a engrangés durant les 30 dernières années, on va dire, avec des revendications, bien sûr, en 80 du printemps berbère, puis après du printemps noir de Kabylie en 2001, où je vous le rappelle, il y a 128 jeunes qui ont été assassinés à balles réelles par la gendarmerie algérienne, plus de 5000 blessés et des milliers d'handicapés. Et il y a eu quand même des acquis derrière, notamment un peu la reconnaissance de Tamazirt, même si on sait que c'est de la poudre aux yeux, mais qui est entré dans la Constitution, une télé berbère, etc., etc. Et ces dernières semaines, on parle déjà d'enlever la langue berbère dans la Constitution. On arrête tous ceux qui s'opposent au pouvoir, tous ceux qui critiquent un ministre ou le président, ou tous ceux qui donnent ne serait-ce leur opinion. On a même arrêté des gens pour un simple j'aime sur Facebook. On est allé les chercher chez eux. On a arrêté un handicapé sur un fauteuil roulant, qui est un militant indépendantiste. Ils sont venus chercher sur un fauteuil roulant, il est en prison. On arrête des femmes, et ça s'est jamais vu en Kabylie. En Kabylie, tu touches une femme, c'est comme tu touches au nif, comme on dit, à la fierté. Si tu arrêtes une femme, normalement, le lendemain, il n'y a plus d'État. Ils vont tout brûler, comme on l'a déjà vu dans le passé. Mais là, on s'inquiète un peu parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de réaction de la population. La population,
pourquoi
elle est...
il n'y a pas de réaction de la population?
Parce que je pense que la population, elle est actuellement à genoux avec le Covid. Les problèmes, il y a une crise sociale incroyable, il n'y a plus de boulot. Tout le monde est en train de partir à la fuite. Je vous avais entendu parler des haragas. Il y a beaucoup de gens qui partent, qui meurent sur des barques. Le pouvoir algérien n'investit pas en Kabylie. Il n'y a aucune entreprise, il n'y a aucun touriste. Quoi d'autre encore, les gens en ont marre, ils commencent à être fatigués, les incendies par-dessus, donc les gens sont plutôt occupés déjà à reconstruire la Kabylie, à replanter des arbres et à reconstruire des maisons. Donc je pense que tout ça a fait que les gens sont complètement out, et voilà, on attend, malheureusement il faut qu'on attende parce qu'on doit se reconstruire déjà mentalement, et c'est vrai que c'est un choc pour la Kabylie. Et nous, déjà, on n'arrive même pas, ne serait-ce déjà, à faire des petits rassemblements, à se mobiliser. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tu fais un rassemblement à Tizi Ouzou, à Béjaïa, j'en parle même pas dans les autres régions, et tu risques l'arrestation et d'être en prison. tu vas pour soutenir un militant, faire un rassemblement de soutien à un militant, et c'est arrivé à Agbou, eh ben, ils ont arrêté 8 ou 9 jeunes et ils les ont mis en prison derrière, alors qu'ils sont allés juste pour soutenir. Hein. Donc là, on est vraiment en train de... Je crois que même le régime de la Corée du Nord, c'est pas pire. Je pense, hein. Sincèrement, je crois que le régime de la Corée du Nord, c'est pas pire que le gouvernement, le pouvoir qu'il y a actuellement. Et tout ça, malheureusement, silence de la France, silence des Occidentaux, tous ceux qui ont des intérêts avec l'Algérie ou qui gouvernent l'Algérie, je veux dire, parce que c'est eux qui gouvernent. On a fait une marche à Paris qui a réuni pas moins de 50 000 personnes. Aucun média, mis à part TV5 Monde, qui a fait un petit reportage 3 minutes, et encore, c'était vraiment... c'était pas grand-chose. On en a parlé. 50 000 personnes dans Paris, personne n'en a parlé.
Et qu'est-ce qu'il en est de la couverture médiatique en Algérie? Est-ce qu'il y a des journaux qui soutiennent les militants, les militantes? Est-ce que...
Les derniers temps, non. Des journaux qui étaient dignes de respect, qui méritaient notre respect, qui ont perdu des journalistes pendant la décennie noire, qui ont été égorgés, qui ont été emprisonnés, ont vendu leur conscience, leur âme, comme l'histoire d'Algérie. Un degré moins, Liberté, le Watan, c'était des journaux qui étaient toujours en tête de la contestation, qui étaient proches du peuple. Malheureusement, soit par peur, soit parce qu'on leur a promis de l'argent pour la publicité, etc., etc. Là, tout le monde est en train de se coucher, malheureusement. Et dans l'indifférence totale, même l'opposition, il n'y a plus d'opposition. On dirait qu'ils attendent juste qu'on leur donne des quotas à l'Assemblée. Les intellectuels, ils ne sont pas là. Les artistes, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. Ils sont tous partis. Ils sont à l'étranger. Bon, ils ont assassiné Mato Blounès, vous le savez très bien. Donc lui, on l'a tué parce qu'il y avait une bonne raison. Et là, on se demande ce qui va advenir dans les prochains mois. On est vraiment inquiet. Franchement, on est inquiet. Et moi personnellement aussi je suis inquiet quand je vois tous ces gens-là, tous ces amis qui sont en prison. Là je regarde mon Facebook ou je regarde mon téléphone et je regarde la liste, et à chaque fois tu as l'habitude de discuter avec eux et tu les vois tac déconnectés ou tac il n'a plus de compte, et après pratiquement plus personne. La peur s'est installée, tout le monde est en fuite, tout le monde a peur, ne serait-ce même pour partager une publication que tu publies. Les gens, ils ont peur de la partager.
Tu disais qu'une personne qui avait été invitée ici et qui est passée en procès a eu beaucoup de questions sur toi, sur l'émission de radio, sur...
Oui, c'est Mouloudj Mohand, donc c'est le journaliste. D'ailleurs, je vais faire une publication sur le site Radio Canu. Il y a des moustiques, là, Radio Canu, en hiver.
Ça. Agglomération lyonnaise.
Bien chauffé ici, hein.
Voilà. Et en fait, il était venu là, il a intervenu plusieurs fois dans l'émission. Et donc, il est passé au tribunal la semaine dernière avec d'autres accusés. Et donc, le procureur, là, a chargé contre moi en lui posant plein de questions dans le procès, alors que ce n'est pas mon procès à moi. Et s'il pose des questions, il faut qu'il pose des questions à l'accusé par rapport à ce qu'il fait ou à ce qu'on lui reproche. Mais lui, il a commencé, le procureur, à demander qui est Dalil, c'est quoi tes relations avec lui, est-ce qu'il est du MAC, est-ce qu'il est toujours président de l'association Tagmatch, qu'est-ce qu'il fait à Lyon, etc. etc., etc. Alors on avait l'impression que c'était un procès dans le procès. Donc aujourd'hui, je me demande... pense que je suis dans cette fameuse liste noire. Voilà. Oui, Yvan ?
Non, c'était pas très intéressant ma question.
C'est toujours intéressant quand tu parles, toi, je sais très bien, vas-y.
Ces questions, c'était pendant le procès, c'était pas pendant l'enquête ?
C'était pendant le procès.
C'était vraiment pendant le procès, en public, quoi.
Donc, je sais même pas s'il a le droit, déjà, de citer mon nom comme ça en procès, dans un procès public, avec des avocats, avec des accusés, avec le public, alors que j'ai pas de... Voilà, on m'a pas convoqué, moi, pour... on m'a pas convoqué devant la justice. Déjà, lui, déjà, il a pas le droit, déjà, de me citer. Mais bon, tu veux demander à un état criminel d'avoir une justice libre, non. D'ailleurs, aujourd'hui, les avocats, même les avocats sont menacés. Les procureurs, les juges, il y a le fameux téléphone qui sonne. Donc, ils condamnent. Aujourd'hui, on a condamné Mira Moknesh à 2 ans de prison ferme. qui est une professeure à l'université de Béjaïa, pardon. Elle a pris 2 ans ferme.
Est-ce que je vais te poser une dernière question et puis après on va laisser l'antenne à Idée Noire qui est juste après nous. Du coup, il y a énormément d'arrestations en Kabylie. Tu dis dans le reste de l'Algérie, est-ce que
il y a aussi
de ce côté-là au niveau de nombre d'arrestations?
Il y a beaucoup d'arrestations même ailleurs. Hein. Quand je te disais tout à l'heure qu'on a arrêté toutes les têtes dans les autres régions, c'est pas pour rien. Ils les ont arrêtés pour qu'il n'y ait pas cette toile entre les régions, entre les militants, même s'ils sont pas de même bord, même si il y en a, ils sont arabes. D'autres berbérophones, etc., etc. On a vraiment fait en sorte de couper les liens entre ces régions. Et aujourd'hui, on a condamné très lourdement des militants dans d'autres régions. J'apporte ma solidarité, même si je ne partage pas leur projet politique ou autre, même si eux ne respectent pas mes convictions ou mon appartenance à une idéologie politique ou alors à un drapeau ou autre. Mais je les respecte parce que je suis un militant, parce que je suis un démocrate. Et tout militant qui est arrêté sur la base de ses convictions, de son opinion, je soutiendrai toujours. Sauf l'intégriste. Voilà.
Ok. merci Dalil. Bah, ça va être l'heure de mettre notre générique de fin. Et puis après, on va laisser la place à Idée Noire. Oula, dis donc, on a l'impression qu'il y a
qui est venu avec des renforts. Et on peut juste rappeler avant de terminer que samedi, il y aura une manifestation contre les violences sexistes et sexuelles. Rendez-vous à Bellecour à 14h. Voilà.
Bah, il va y avoir du monde.
On verra. Et merci encore, Dalil, d'être venu nous rejoindre.
Quand vous voulez, je reviens. Et puis, si vous avez envie d'inviter un avocat, un journaliste, n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Voilà.
Ok, et nous, on se retrouve la semaine prochaine, a priori.
Radio Canu. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Rebelle des radios.